passe une semaine sans que soit organisé dans notre pays un concours de beauté. Cette frénésie pour les reines en tout genre ne date pas d'aujourd'hui. Dès le Moyen-Âge, on célèbre les reines de mai, un rite de préparation au mariage. Et c'est vrai que les critères de beauté et la perception du corps ont évolué avec le temps. Et le concours de Miss raconte des choses, vous le verrez, très révélatrices sur la société, sur la culture et sur la condition des femmes. C'est le dossier dans un instant de la Tête au Carré, avec vos messages et vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Du nouveau sur les origines de l'homme avec la découverte d'une nouvelle espèce d'Australopithèque et c'est à la une de la science aujourd'hui, Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu, c'est un nouveau cousin pour la célèbre Lucie, mais peut-être un nouveau voisin puisque cette nouvelle espèce a été mise au jour à seulement quelques kilomètres du site de découverte de Lucie. On en parle peut-être dans un instant oui. Si on arrive à joindre notre invité en Afrique du Sud, José Braga. Vos questions sur Twitter bien sûr, à tout de suite.
Et c'est Joseph Carvalona qui réalise cette Tête au Carré, dossier préparé aujourd'hui par Anne-Cécile Perrin et Thomas Delosier.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Les Miss et les concours de beauté, donc cet après-midi dans la Tête au Carré avec mes invités en studio, Anne Monjarret et Georges Vigarello. Bonjour à
bonjour.
Tous les deux.
Bonjour.
Et puis par téléphone depuis Toulouse, Catherine Monod, bonjour.
Bonjour.
Anne Monjarret, les concours de beauté, est-ce que c'est un sujet sérieux pour les scientifiques, ça ?
Eh bien, pas vraiment. En tout cas, c'est un sujet qui a longtemps été considéré comme illégitime, pas très académique, sans doute parce que les Miss ont quelque chose de frivole, ou en tout cas dans l'image que l'on en a. Mais peut-être chez les historiens, c'est un peu différent, d'une part. Aux États-Unis également, ça a été pris en compte beaucoup plus vite qu'en France.
Ouais.
Et on voit des changements actuellement, puisqu'il y a une thèse en cours à l'université de Rouen.
C'est vrai.
De Camille Couvry. Mm-hmm. Et donc, voilà, c'est peut-être les études sur le genre qui nous amènent à voir autrement et à penser autrement le féminin et ses concours.
Voilà, les lignes bougent. Donc, et vous êtes ethnologue en ce qui vous concerne. Mmh. Georges Vigarello, donc là, je m'adresse effectivement à l'historien. Ces concours de beauté, ça raconte beaucoup de choses sur l'évolution des corps au fil du temps. C'est ça qui est intéressant aussi pour quelqu'un comme vous.
Alors, ça raconte beaucoup de choses sur l'évolution des corps. Ça raconte beaucoup de choses, évidemment, aussi sur la situation de la femme. Mais sur les corps, oui, je trouve que c'est absolument passionnant. Parce que si on prend simplement l'exemple des Miss du XXe siècle, c'est-à-dire celles qui ont ce label un petit peu officiel,
oui,
de reconnaissance, si on prend ces Miss et que l'on essaie de confronter leur mensuration, on se rend compte, surprise, qui n'est peut-être pas d'ailleurs une grande surprise, que les corps s'affinent.
Ouais.
Et que, en fait, une minceur s'accentue dans les mensurations prises, que par ailleurs la hauteur du corps également s'accroît. Donc on voit bien que, à travers ces types, je dirais, de désignations de critères de beauté, eh bien, se révèle tout simplement, ouais, des normes.
Et les canons de la beauté autour, oui, de la minceur sont très anciens. On le verra d'ailleurs avec vous dans un instant. Catherine Monod, pour une jeune fille en pleine construction de son identité, est-ce que les concours de beauté peuvent représenter un danger ou pas ?
Ils peuvent, oui. Ils peuvent être, en tout cas, le regard posé sur le corps en train d'évoluer peut être positif dans ce moment qui est un peu charnière dans la puberté et où la petite fille devient jeune fille, où elle a besoin d'être accompagnée et de reconnaissance dans cette évolution et dans ce cheminement. Mais lorsque on est jugé, classé et donc par en négatif dénigré aussi, mm-hmm, et déclassé, là évidemment pour la majorité des petites filles qui vont intégrer ces concours, il peut y avoir un effet pervers.
Allez, on se retrouve dans un instant. On a posé déjà quelques bases de notre discussion avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr. À la une de la science, pas de une pour
personne.
L'instant, Axel. On est bien embêté parce qu'on aurait voulu vous parler d'une nouvelle espèce d'Australopithèque découverte en Italie, tout près de la fameuse Lucie.
Et en Éthiopie plutôt, voilà, qu'en Italie, Mathieu.
En Éthiopie, pardon,
voilà.
Oui, c'est ça.
Mais de la
farce. Voilà, je suis en train de regarder en même temps la régie pour voir si on a des nouvelles de notre scientifique. Eh bien non, on n'arrive pas à le joindre. On espère pouvoir le contacter d'ici la fin de l'émission.
On va essayer. On vous parlera de cette Australopithèque d'Eyemereda.
C'est voilà. Son nom, voilà. Et on tente notre possible pour joindre José Braga, qui est paléo-anthropologue. En attendant, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, un nouvel exemple de fraude scientifique. Justement, en décembre dernier, une étude américaine expliquait qu'un entretien d'une vingtaine de minutes suffisait pour faire changer d'avis un militant opposé au mariage homosexuel. Eh bien, la revue Science vient de retirer sa publication en raison d'irrégularités dans les données. Selon l'institut de sondage nommé dans l'étude, l'auteur les aurait inventées. Science va même plus loin en évoquant des récompenses académiques fantaisistes sur le CV du chercheur. Ce dernier a d'ailleurs réagi en présentant ses excuses et en assumant assumant l'entière responsabilité de son acte. Une véritable catastrophe au sein de la faune du Kazakhstan. Plus de 120 000 antilopes saïga sont mortes ces dernières semaines. C'est plus d'un tiers de la population globale de cette espèce protégée, qui est facilement reconnaissable grâce à son museau allongé, ressemblant à une trompette. Selon les experts de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, les premières pistes orientent vers une maladie infectieuse nichée dans l'herbe de la région. Et puis à Hong Kong, les détritus sont maintenant un visage. Une agence de communication a développé un système permettant de retracer les propriétaires des ordures trouvées dans les rues. Intitulé le visage des détritus en français, donc, l'opération utilise les traces d'ADN retrouvées sur les mégots, les gobelets ou encore les bouteilles en plastique pour modéliser grossièrement la physionomie de celui ou celle qui l'a jeté. Les dessins sont ensuite placardés dans des lieux de forte fréquentation de Hong Kong pour dissuader les possibles futurs pollueurs. Allez, les concours de beauté, c'est dans la tête au carré dans un instant.
Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé, on dirait la nuit. Vieux château fort, bouffé par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents. Monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et main d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir. Mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares. Comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. Des navires de guerre battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, les monstres d'acier. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore, acier rouge et main d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien, y a plus rien à faire. Quand je fais plus rien moi, je coûte moins cher que quand je travaillais moi. D'après les experts, je me tuais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui deviens fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien moi, y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Rouge et main d'or, travailler encore.
Les mains d'or, Bernard Lavillier à l'instant sur France Inter et les concours de beauté donc dans l'émission cet après-midi. Pour en parler, Anne Monjarret, vous êtes ethnologue et directrice de recherche au CNRS et vous avez donc mené des travaux sur les critères de beauté qui caractérisent donc ces concours dans plusieurs cultures. Vous êtes intéressée à l'Italie en particulier hein, et aux États-Unis. Georges Vigarello, vous êtes directeur de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont par exemple La silhouette du XVIIIe siècle à nos jours aux éditions du Seuil. Et puis Catherine Monod, vous êtes anthropologue avec nous donc par téléphone depuis Toulouse. Vous êtes docteur en anthropologie à l'EHESS et à l'Université de Toulouse Le Mirail. Vous êtes chargée de mission pour l'égalité filles-garçons-femmes-hommes pour l'Académie de Toulouse. Et vous avez publié Petite fille d'aujourd'hui, l'apprentissage de la sexualité, de la féminité, pardon, aux éditions Autrement. Voilà, les auditeurs nous rejoignent avec les messages et les questions. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Difficile hein, aujourd'hui de ne pas être miss de quelque chose. Les concours de beauté sont apparemment, en tout cas, de plus en plus nombreux. Il commence à susciter, même on le disait, un petit peu la curiosité en France des sciences sociales. C'est donc très populaire, Anne Monjarret, et en même temps très dénigré. Hein. Il y a ce paradoxe autour des concours de beauté.
Oui, tout à fait. Ça a toujours été... Peut-être parce que justement, c'est une fête populaire, c'est à travers cette manifestation, c'est aussi une fête hein, populaire, et donc ça a effectivement été toujours entre la répulsion et l'attrait, la mise en valeur en fait de cette féminité, parce que cette fête travaille le féminin, et c'est aussi ça qui est intéressant pour le sociologue ou pour l'ethnologue, et cette prise en charge d'une certaine manière aussi, communautaire, d'une communauté, celle de... Alors, ce que je veux dire, c'est que l'histoire fait que les origines de la Miss viennent de fêtes plutôt rurales, communautaires, où on mettait en valeur un type de fille plutôt vertueuse, et progressivement cette fête s'est transformée et est devenue la Miss, et on garde de ça dans la Miss contemporaine. Et cette fabrique, d'une certaine manière, du féminin et de cet accompagnement, alors aujourd'hui, c'est pris en charge non plus par la communauté rurale, mais par
des entreprises.
Des entreprises, voilà.
Qui sont très bien
faites. Et ça change complètement la donne aussi. Et le travail de la beauté aussi qui va avec, la question de la marchandisation qui intervient, et peut-être la question politique aussi.
Oui. Georges Vigarello, quand on s'intéresse au corps et à l'histoire, évidemment, on remonte assez loin sur cette question de la beauté au cours de ces rendez-vous particuliers.
C'est évident qu'il y a toujours à l'arrière-plan une notion d'excellence. Moi, ce qui me frappe, par exemple, et à la fois nous sommes près et nous sommes loin de notre époque, ce qui me frappe, par exemple, c'était cette sorte de rituel qui consistait à créer des temples de beauté à travers des expressions poétiques et qui honoraient la femme considérée comme la plus belle. On trouve ça à la Renaissance, on trouve ça en Italie, on trouve ça dans d'autres régions. Donc on voit qu'il y a bien là la volonté de promouvoir quelque chose qui est de l'ordre de l'esthétique. C'est pas d'ailleurs étonnant que cette pratique ait pris plus de force à la Renaissance, parce qu'à la Renaissance, il se passe deux choses. D'une part, le sentiment que c'est la femme qui exprime le canon de beauté de la manière la plus marquée, et d'autre part, le sentiment que, au-delà de la seule noblesse, au-delà de la seule qualité, en quelque sorte aristocratique et sociale, il peut exister une autre qualité, qui est la qualité physique et qui s'exprime à travers la beauté. Je pense à un exemple très simple, des peintres comme comme Titien, par exemple, s'autorisent à faire une toile qui s'appelle la Belle. Et c'est une toile dont le nom de la personne n'est pas désigné. De même que vous avez par exemple François Ier qui achète une toile parce qu'il considère que la personne représentée est parfaitement belle.
Donc ce sont des standards.
Ce sont des standards. Ouais. Alors qu'elle ne répond pas forcément à un nom. Donc il se produit là quelque chose qui nous fait entrer, me semble-t-il, de manière encore très prudente, dans la modernité.
Ouais. Mais ce sont des critères intéressants à observer parce que sur le fil de l'histoire, évidemment, on voit l'évolution précisément
si on prend le problème de la Renaissance, il est clair que le visage l'emporte très fortement dans le tableau, par exemple.
Anne Monjarret, dès le Moyen-Âge, quand même, on célèbre aussi les reines de mai, par exemple.
Oui, c'est plutôt les reines et pas les miss. Ouais. L'idée aussi, c'est de préparer au mariage. Et donc, on prépare la communauté des filles par des rituels. C'est-à-dire, il y a des rituels qui accompagnent les filles. Et ces moments, en fait, où on couronne. Alors, c'est pas tant la beauté pour réagir à mon collègue, mais également la virtuosité et la morale.
C'est ça.
Donc, la préparation au mariage amène à couronner la personne la plus vertueuse. Et c'est là où vont se rejoindre en fait deux données, celle de la beauté et celle de la vertu, qu'on retrouve en fait dans les concours de Miss actuels.
Oui. Catherine Monod, quand on s'intéresse comme vous aux petites filles, à l'apprentissage de la féminité, alors c'est embêtant parce que maintenant les concours pour les petites filles sont interdits en France depuis l'année dernière, donc ça vous fait un sujet d'étude là qui s'envole d'une certaine manière, non ?
Oui, mais la féminité ou la façon dont la féminité des jeunes filles est mise en valeur dans notre société, heureusement ou malheureusement, peut être observée de bien d'autres manières aujourd'hui, notamment par les médias de masse. Mais effectivement, on va dire le politique est venu légiférer autour de cette question, comme autour de toutes les questions, on va dire, de santé publique, puisque là, la santé à la fois psychologique et le développement des enfants pouvait être mis en cause.
Et c'était nécessaire de le faire, selon vous, justement ?
Je dois avouer que, sans vous trop passer mon rôle, j'étais plutôt favorable, effectivement, à cette interdiction ou limitation, parce que pour moi, il n'y a pas réellement d'intérêt pour les petites filles. Il y avait surtout un intérêt pour, effectivement, les organismes qui géraient ces concours, pour éventuellement les mères, qui bien souvent sont à l'origine, à un âge très précoce, des premières inscriptions.
Et, oui.
Et puis finalement, ces petites filles, c'est bien normal qu'elles apprennent la féminité. Toutes les sociétés le font, toutes les mères et toutes les grand-mères et les sœurs transmettent leur conception et leur culture féminine à celles qui viennent après elles. Je pense que lorsque cela se fait dans un cadre familial, dans un cadre amical et on va dire privé, c'est beaucoup plus enrichissant pour les petites filles que dans un cadre public où là il peut y avoir des problèmes d'estime de soi et des problèmes d'ego qui viennent se greffer et là on va dire même perturber l'acquisition à la fois de la féminité et puis du rôle de la femme entre guillemets ou des femmes, en tout cas le rôle féminin au global.
On y reviendra avec vous, hein, Catherine Monod, sur les dérives possibles effectivement de ces concours. Cette question de Viron, tout comme de Larry d'ailleurs, peut-être pour vous Anne Monjarret, Viron nous dit ceci: pourquoi les concours de beauté seulement chez les femmes et les hommes alors? Et puis Larry, pourquoi est-ce qu'on distingue la problématique des concours de beauté au féminin des autres?
Mais la question des hommes, il existe, mais c'est plus récent, les Mister.
Ouais.
Donc c'est vrai que ça fait moins partie, c'est moins ancré dans une histoire, mais peut-être que c'est aussi dû à la relation et surtout à la représentation de la beauté masculine, même si on y travaille beaucoup actuellement et ça avait été mis un peu de côté. Ce qui fait vendre aussi, c'est le corps de la femme.
Plus que le corps de l'homme.
Depuis plus longtemps. C'est-à-dire que je pense que le corps de l'homme a été intégré beaucoup plus récemment dans cette logique marchande, puisque il y avait quand même des stéréotypes même de mode qui étaient assez classiques. Et là, on voit que la mode masculine change complètement. Et avec ça, eh bien, tout ce qui permet cette valorisation de la mode, du vestimentaire. Et je pense que l'arrivée des misters pose aussi cette question de la commercialisation.
Oui, Georges Vigarello.
Ouais, ce que dit Anne Monjarret sur les misters est extrêmement intéressant, à mon avis, parce que il y a en fait une histoire qui est effectivement récente, comme elle le dit très bien, mais qui commence par les monsieur Univers, monsieur France, et qui en renvoie à une représentation proche du culturisme, autrement dit centrée sur le muscle.
Ouais.
Lorsque vous passez au mister, à ce moment-là, il y a d'autres critères qui interviennent, en particulier le critère d'élégance, c'est-à-dire une certaine finesse du corps. Et donc on voit très bien que ce qui se passe dans les décennies toutes récentes, c'est le fait que dans la mesure où la femme entre dans la possibilité de multiplier les critères et de ne pas s'en tenir seulement aux critères de la beauté, comme la définissons, elle peut très bien avoir des critères de résistance et des critères de force. De la même façon, ce qui bouge dans la façon de se représenter l'homme, c'est le fait que c'est pas seulement la force qui peut primer, vous voyez, c'est que d'autres critères peuvent intervenir. Et dans cette façon de construire un mister, c'est-à-dire quelqu'un qui, peut-être à travers la notion anglaise de l'élégance, est quelqu'un qui ne se limite pas seulement au galbe du muscle, à travers ce fait-là, eh bien, il y a quelque chose qui traduit des changements culturels.
On va se retrouver dans un instant pour en discuter. Les messages arrivent pour vous sur franceinter.fr. All the Lies sur France Inter. La tête au carré avec notre sujet sur les concours de beauté cet après-midi. Mes invités Anne Mangaret, Georges Vigarello et par téléphone depuis Toulouse, Catherine Monod et vos messages sur franceinter.fr. Ce message d'Annie qui nous dit ceci. Ma ville a donné le nom de la première reine des vins à notre médiathèque alors qu'on voit ailleurs Louise Michel ou Aragon. J'en suis encore traumatisée, dit Annie qui habite dans l'Ardèche. Anne Mangaret.
Ben, je trouve que c'est intéressant parce que ça pose la question de la reine contre la miss, si l'on peut dire. C'est-à-dire, il y a une tradition, une reine, comme une miss, est une ambassadrice.
Ouais.
Et donc, elle est ambassadrice de tout. Et en l'occurrence, elle peut être ambassadrice du vin, des fraises, des mirabelles,
de la saucisse,
etc. Et donc, il y a une mise en parallèle, et un glissement, parce que elles ont une fonction. Mais c'est pour ça que il y a une Miss Vin dans la région.
Oui. Surtout pour le nom d'une médiathèque, hein, Georges Vigarello. Ça vous amuse ou ça vous désole, au fond?
Non, ça m'amuse. En même temps, ça se comprend. Comme c'était très bien dit, les reines sont des ambassadrices du lieu. Et on voit très bien, d'ailleurs, quand on fait un petit recensement, que vous avez énormément de Miss ou reines de ce genre. Je pense, moi, j'ai noté, par exemple, Dactylo, Métro, etc. Ça renvoie, là, à des façons de désigner des êtres remarquables, mais qui sont liés au local.
C'est
alors que la Miss, c'est ça qui est très intéressant.
Le régionalisme, c'est très important
dans
ces concours.
Alors que la Miss, théoriquement, surplombe. C'est-à-dire qu'il y a une organisation qui existe depuis les années 20 et qui est un exemple, je dirais, hiérarchique, vous voyez, pyramidal. Ça part du bas et puis ça monte progressivement, exactement d'ailleurs comme le dispositif sportif le fait. Hein.
Oui, on peut monter effectivement tous les grades géographiques, Anne Mangaret, hein, depuis la région jusqu'à l'univers.
Hein. Oui, jusqu'à l'univers. C'est pour ça que c'est intéressant. Et ça amène à se poser la question d'un concept qu'on appelle, nous, glocalisation, c'est-à-dire considérer un événement ou un fait à la fois sur le local et le global. Et il y a une forme de tension, et ça se construit ensemble, et on ne peut pas éviter ça. Et les Miss, c'est tout à fait...
Donc il y a ce grand écart qui est fait, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une uniformisation, parce que tout le monde doit se ressembler, et puis on représente un peu le monde entier, mais en même temps, on a son identité régionale qui est très importante. Hein.
Et c'est complètement traversé aussi au moment du concours. C'est-à-dire qu'il suffit de voir l'émission télévisée, puisque ça passe à la télé, ou également pour une Miss Monde et une Miss Univers, il y a toujours une séquence où les Miss, les
candidats,
se présentent en costume stylisé. Alors, pour Miss France, c'est régional, mais pour Miss Univers, c'est les pays. Et on est complètement dans cette revendication locale, tout en prétendant finalement être ambassadrice du monde, puisque l'idée c'est ça aussi.
Georges Vigarello.
Mais c'est très intéressant cette tension, parce qu'on voit bien que cette organisation de la Miss, qui une fois encore date des années 20, bon, il y a des petites des préambules, mais ça date vraiment des années 20, c'est convergent avec quoi? Avec le voyage, avec le tourisme, avec la possibilité de faire en sorte que les choses bougent, avec le fait de pouvoir surplomber le local, vous voyez. Et je trouve que ce phénomène-là traduit quelque chose qui est extrêmement riche et qui est de l'ordre de la mobilité. Ça traduit aussi, ne l'oublions jamais, un imaginaire de la démocratie.
Pourquoi ?
Parce qu'on part de la base, et puis finalement, ce sont les plus compétents, ce sont ceux qui sont élus, qui peuvent émerger, vous voyez, avec l'idée que tout le monde peut participer.
C'est ça, le public aussi, évidemment, a son mot à dire dans ces concours.
Hein. Oui, puisqu'il vote.
Et Yves Coppens, par exemple, puisqu'on va parler de paléoanthropologie tout à l'heure et d'Australopithèque, qu'on a enfin retrouvé d'ailleurs notre invité en Afrique du Sud, ce sera la fin de l'émission. Yves Coppens, lui, a participé justement, c'est assez étonnant, au concours Miss France, c'était en 2002, il était même président du jury, et voilà ce qu'il disait à l'époque.
Le top départ pour les votes Minitel et téléphone, mais d'abord, permettez-moi de vous présenter une partie du jury, non sans avoir omis de saluer le président du jury, monsieur Yves Coppens, qui est là, bonsoir.
Alors, bonsoir.
Ce qu'il y a d'intéressant, et Xavier parlera avec vous tout à l'heure, c'est que vous, votre fiancée Lucie a 3 millions et demi d'années, c'est ça ?
Elle était très belle. On la disait la Miss de la savane.
On a une idée du visage qu'elle avait ?
Oh, mais absolument. Je n'ose pas vous le faire, mais une petite tête et puis une face un petit peu projetée comme ça. Elle était très très jolie. Elle a 1m10, vous vous rendez compte ? 1m10. Oui. Quand je lis ici les tailles d'1m75, 1m78, 1m80, L'humanité est en progrès, l'humanité est en progrès, c'est certain.
Voilà, Yves Coppens, il est assez drôle d'ailleurs dans cet extrait, hein, Georges Vigarello, sa mise de la savane, il est prêt à tout hein, pour défendre Lucie.
Oui, hein. C'est quelqu'un qui arrive à traverser, je trouve, à la fois ces objets, à être dans une époque extrêmement lointaine, qui se calcule en millions d'années, et à être actuel.
C'est ça, et puis il visualise le visage de Lucie, ce qui est quand même fou.
Il visualise le visage et le corps, ne l'oublions jamais, c'est très important le problème de la stature et du corps.
À partir des ossements de Lucie, il arrive à en faire la mise de la savane. Oui. C'est bon. Quels sont les critères, Anne Monjarret, pour participer à ces concours, alors?
Alors, juste avant.
Faut faire plus d'un mètre dix, ça c'est sûr.
Quand même, je voulais revenir sur l'intervention de Coppens, parce que je trouve que ce qui est intéressant, c'est de faire venir un scientifique comme membre de jury. Oui. Et ça montre aussi l'évolution aussi de ces membres, c'est-à-dire ceux qui vont quand même juger et qui vont justement décider des critères. Hein. Donc, les critères, ils changent, hein, mais. En gros, c'est le corps et l'esprit, de plus en plus. C'est le corps, l'esprit et l'engagement.
Oui.
Puisque dans les années 20, et par exemple même en Italie, dans les années 30, c'était le sourire. C'est-à-dire on s'intéressait à un morceau du corps et qui représentait finalement et qui incarnait le tout. C'est-à-dire la partie incarnait le tout. Et puis progressivement, on voit arriver dans... Il suffit de regarder les fiches d'inscription, les critères. Donc effectivement, il y a le corps, mais il y a aussi... On teste l'intellect. On demande quelle est la formation. Mmh. On pousse de plus en plus, finalement, le critère de sélection. Et puis après, il va y avoir autre chose qui va se jouer, c'est-à-dire qu'il y a ce qui est mesurable. Et on va dire que le corps est mesurable. Mmh. Et puis, il y a ce qui ne l'est pas et qui va faire sans doute la différence entre les candidates. Ouais. C'est le je ne sais quoi qui va faire que, à travers cette uniformisation, d'une certaine manière, puisqu'on on l'abordait, eh bien, il y a une candidate, une miss qui va se dégager.
Catherine Monod, vous souhaitiez réagir?
Oui. Malgré tout, ce qui reste notable et ce qui reste surprenant, c'est que nous vivons au XXIe siècle, les femmes travaillent, les femmes battent des records sportifs, les femmes vont dans l'espace, que sais-je encore. Et malgré tout, dans à la fois l'imagerie populaire et finalement dans ce qui nous est rapporté et relayé, ne sont mis en avant de comme représentante, meilleure représentante de notre jeunesse féminine, que ces jeunes filles aux mensurations idéales qui, certes, se détachent aussi parce qu'elles ont un petit vernis maintenant, soit culturel, soit, on va dire tout simplement, au niveau de leur cursus universitaire. Mmh. Mais malgré tout, on est bien d'accord que c'est leur beauté qui est mise en avant. Ce qui est un peu gênant dans le sens où, finalement, ce que l'on transmet par cette idée aux petites filles qui regardent la télé, eh bien, c'est que pour être désirable, pour être une femme accomplie, il faut avant tout rentrer dans les canons de beauté extrêmement à la fois stéréotypés et... on pourrait dire un peu chimérique, puisqu'il ne concerne qu'une très faible part de la population. Et donc on ne transmet pas aux petites filles l'idée que être une femme, c'est être aussi beaucoup d'autres choses, et qu'on peut avoir un corps très beau et très désirable lorsqu'il ne ressemble pas à celui qui est dans le poste de télévision, et qu'un un corps qui transpire, un corps qui agit, qui construit, etc., c'est aussi un corps de femme, et qu'il n'y a pas d'antinomie là-dedans.
Alors, Georges Vigarello, avec votre œil acéré d'observateur de l'évolution du corps, comment vous notez ces changements? On parlait des années 20 pour le concours des Miss. Comment ça a évolué précisément?
D'abord, moi, ce que je relève, c'est que, comme le disait Anne Monjarret, c'est pas seulement la plastique qui est mise en évidence. C'est à la fois la présence, c'est en même temps les déplacements, la façon de bouger, l'aisance. C'est-à-dire qu'il y a des critères qui sont extrêmement nombreux. Cela dit, ce qu'il faut aussi remarquer, c'est que les exemples donnés aux jeunes générations sont quand même extrêmement multiples. Il n'y a pas que les Miss. Il y a en même temps les sportives, il y a celles qui réussissent intellectuellement, il y a celles qui sont présentées à la télévision. Il y a une démultiplication des modèles aujourd'hui, ne l'oublions jamais. Ne soyons pas je dirais craintif face au fait que le modèle d'une beauté qui a évolué soit mise en évidence. Mais elle a vraiment évolué. C'est ça qui me paraît très intéressant, si vous voulez. Elle a évolué dans la plastique, on vient de le dire, grandeur, etc., minceur. Elle a évolué également dans l'aisance. Elle a évolué aussi dans l'image qu'on le donne. Vous savez, dans les années 30, par exemple, ceux qui organisaient les concours de beauté, oui, ils avaient une vision, figurez-vous, eugéniste des choses. C'est-à-dire qu'ils disaient, voilà, on va vous montrer des exemples de beauté pour que vous soyez habitués à voir quels sont les critères. Et peu que vous puissiez choisir. Et que vous puissiez choisir les plus belles. Vous voyez, pour habituer, c'est pas seulement le regard des filles, c'est habituer le regard des garçons. Donc, par rapport aux années 30, ce qui se fait aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Ne l'oublions jamais. L'histoire est quand même, je veux dire, très marquante de ce point de vue-là. Et bon, une fois encore, moi, je suis pas un fanat du concours de beauté, mais je crois qu'il faut relativiser dans la mesure où, je le répète et j'insiste, une multiplicité d'exemples existent qui sont offerts au public.
Alors, les Miss, évidemment, plutôt dans la jeunesse, mais comment vieillissent-elles? C'était le thème d'un film qui s'appelle Elle s'en va, Emmanuel Bercon en 2013, avec Catherine Deneuve sur la gloire passée et le retour des anciennes Miss.
Bonjour à toutes. Voilà, on voulait profiter de votre présence pour organiser un petit casting pour notre prochaine campagne. Pour celles qui veulent y participer, c'est très simple. Ça va consister à faire quelques photos au bord du lac avec Dick, notre mannequin senior. Voilà, donc c'est pour promouvoir le troisième âge. Il y a un slogan qui est assez sympa, c'est « En avant la vie !»
Sympa le slogan.
Le troisième âge.
Chut, un peu de silence.
Alors en attendant, on recherche la femme bien dans son corps, bien dans son temps, bien dans ses formes. C'est là, c'est que ça sexy. C'est...
Allez, c'est parti pour la photo. On se tient bien droite.
Et les filles, on me regarde là. Mais qu'est-ce qu'elles sont belles, c'est beau là. Allez, on en jette, on donne tout. Là, c'est que ça sexy là.
Durand, on bien. Monte son écharpe.
Picardie, on se redresse. On se redresse, les mentons en l'air, les mentons. C'est bien ça. Les ventres, on les rentre, on les rentre. Bretagne, on sourit, Bretagne. On fait les pieds, on sent la poitrine. Allez, parfait, c'est bon là, c'est bien, c'est bien. Ça me plaît, ça sexy, continue, continue, ça me plaît, ça me plaît. Parfait.
Voilà, extrait du film Elle s'en va, la sexa sexy, Georges Vigarello, ça vous inspire quelque chose?
Oui, parce que en fait, lorsque l'on reprend un petit peu l'éloignement temporel, on se rend compte que